Dernière partie de cette journée à entendre la conférence de M. Emmanuel Leclerc, que je vous présente et dont je vous dirai également l'argument. Docteur en philosophie morale, auteur d'une thèse soutenue en 2016 intitulée « La sagesse pratique dans la pensée de Paul Ricoeur, une prudence pour aujourd'hui ». Il est actuellement enseignant en professeur de philosophie en lycée, étudiant en licence canonique en théologie et intervenant à l'IERP sur le thème de l'anthropologie du sacré, dans le cadre d'un cours à distance. Enfin, il est écrivain, il a déjà publié 5 livres, dont 2 titres que je vous donne, « L'amitié en vérité » aux éditions des Béatitudes et « Méditer avec Mère Teresa » aux éditions Salvatore. Et puis son tout dernier livre qui va sortir fin mars à l'occasion des états généraux de la bioéthique s'intitule « L'embryon » aux éditions Teki. Personnalisme et fraternité. Sous ce titre, nous allons rencontrer une philosophie personnaliste donc qui offre à la vie une certaine fraîcheur, un mode de vie, une manière d'être, une vision du monde, une fraternité en opposition au matérialisme et à l'individualisme ambiant. Le personnalisme est donc à la fois cette quête spirituelle, recherche de sens, ressourcement et démarche politique de transformation sociale. Le personnalisme fraternel est producteur de sens face aux enjeux actuels. Il permet de soutenir notre volonté d'ouverture à l'autre. La dignité de la personne humaine s'éclaire et se vit par et dans la fraternité. J'aime lire ces lignes qui font déjà au fond transition entre une journée de type historique et théologique et la journée de demain consacrée davantage aux aspects ecclésiaux et sociaux de notre thème. Emmanuel, je vous donne la parole. En vous remerciant d'être avec nous.
Merci à vous. Je voudrais tout d'abord remercier et exprimer ma profonde gratitude et reconnaissance envers les organisateurs de cette session. Merci pour la confiance que vous me faites, d'autant plus que je me lance dans l'arène, étant donné que c'est la première fois que je donne des conférences à l'Institut catholique. Donc merci de votre compréhension et de votre indulgence. Voilà, en tout cas, courage, c'est la dernière conférence avant cette belle grande conférence de ce soir de Bernard Levert. Je voudrais commencer mes propos par un fait concret. Nous avons parlé toute la journée de la fraternité sous différents angles, sous différents aspects. Et la fraternité, il est bien beau d'en parler, mais faut-elle encore qu'elle soit incarnée? Et donc, je vous livre ce petit témoignage. Je vous en livrerai deux au début, un au début et un à la fin. Il y a quelques années, lorsque j'ai été sur Lyon, j'ai accompagné des jeunes en fin de vie dans l'unité des soins palliatifs. Et je me rappelle avoir accompagné un jeune, vraiment dans ce passage, dans le passage. Et juste avant de partir, je lui tenais la main, juste avant de partir, il m'a dit « Merci mon frère ». Et il s'est endormi. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de comprendre pour lui ce que voulait signifier mon frère. Et cependant, il m'avait appelé mon frère. Et lorsqu'il m'a été demandé de vous parler du personnalisme, tout de suite cette image et cet épisode m'est revenu. Et j'ai pris plaisir à travailler. Pourquoi? Parce que à travers, il s'appelait Marc, à travers ce corps de Marc qui était devant moi, il me restait un visage. Et comme l'écrit Nicolas Berdiaev, rien au monde n'est plus significatif, ne rend plus sensible au mystère de l'existence que le visage humain. Pourquoi le visage? Parce que ce qu'il y a de plus exposé en l'homme, de plus vulnérable, le visage qui me fait face, me met en question par sa distance et sa séparation infinie. Il est celui de l'autre, il est celui de l'étranger. Mais en même temps, il exprime un dénuement absolu. Il est devant moi sans défense, totalement exposé. Dans l'étrangeté du visage d'autrui, se lisent à la fois la tentation du meurtre, fomentée pour nier l'altérité de l'autre, et son interdiction, qu'exprime la nudité du visage et sa faiblesse offerte. Ils me disent ce commandement, « Tu ne tueras point ». Cette parole du visage, écrit Pierre Hayat, institue l'humain, je cite, comme « animal déraisonnable ». Le rapport humain fondateur, poursuit-il, est une suspension de la lutte des vivants pour la vie. Le commandement du visage me vise de manière d'autant plus impérieuse que l'autre m'est étranger, qui m'altère dans mon égonomie, qu'il me met en question dans mon égoïsme. Le dire du visage, c'est celui de la responsabilité infinie à l'égard de l'autre. Dans le mot visage, deux mots cohabitent et se donnent à lire, celui de vie et celui de sage. La vie vient d'autrui, dit chaque visage rencontré, et c'est dans son accueil que réside la sagesse. Ce dire du visage exprime le premier langage de l'humanité, comme l'écrit Pierre Hayat de nouveau, c'est-à-dire celui qui révèle qu'il existe un choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l'humain et l'inhumain. Oui, autrui me parle par son visage. La hauteur caractérise le lieu d'où il parle. Il m'oblige. Il me commande sans m'opprimer. Son commandement s'adresse à moi comme un enseignement qui me met continuellement en question. Le lieu où je me tiens est ce lieu d'élection qui coïncide avec celui de ma mise en question. Par là, et c'est important, autrui me constitue unique. Et je reviens, ça permet de revenir sur l'unicité dont parlait Sorodil à l'instant. Il n'y a que moi qui puisse répondre à cette unicité. Je puis certes me dérober à son appel, me conduire en déserteur, mais je ne puis me soustraire à la responsabilité dont il m'a investi. Elle me poursuit. La responsabilité se présente comme anarchique, car elle ne repose pas sur le travail bien ordonné d'une raison législatrice de l'ordre oral. Pour le philosophe Emmanuel Lévinas, la loi vient de l'autre, avec un grand A, non de cette activité législatrice de la raison. Le personnalisme aujourd'hui, dans la suite d'Emmanuel Mounier, est un humanisme des visages, inspiré par Emmanuel Lévinas. Le visage est offert, il est vulnérable. Il porte la marque de notre fragilité, de notre vulnérabilité, devant la force et la violence, devant la maladie, l'infirmité et la mort. En même temps, dans sa vulnérabilité, il résiste passivement et oppose la force d'une dignité qui s'exprime dans la faiblesse jusqu'à l'issue ultime et même au-delà. Lorsque la vie a quitté le corps, nous fermons les yeux du mort. Pourquoi ? Je ne dirai pas qu'il ne nous parle plus, car il reste sur le visage du défunt et sous ses paupières closes, comme un regard tourné vers l'intérieur. C'est le regard de ceux qui prient les yeux fermés, tournés vers un Dieu, vers les autres et au-dedans d'eux-mêmes, dans leur intériorité inviolable. Mystère de la personne qui se survit comme dans un autrement être, selon une expression chère à Emmanuel Lévinas. Devenir homme consiste à se libérer de l'impérialisme du « je » pour accéder à un autrement qu'être. C'est en ce sens que peut s'interpréter le propos de Karl Jaspers, qui voit dans l'homme, je cite, cet être qui, par son être, met en question l'être. En partant de la signification du mot personne, qui en grec se traduit par prosopone, c'est-à-dire être en face de l'autre, être en dialogue, lui parler, notre exposé nous permettra ainsi de comprendre, à l'aide de trois parties, en quel sens le personnalisme et cette philosophie de la rencontre, cet humanisme de la conversation, pardon, c'est-à-dire cet humanisme qui construit et édifie la fraternité. Mes trois parties sont les suivantes. Premièrement, je parlerai, j'exposerai ce que j'ai intitulé « La sagesse de l'amour ». Deuxième partie sera une réflexion sur la raison et la souveraineté de l'autre avec un grand A. Et enfin l'autre, là aussi avec un grand A, comme sujet, comme un autre moi-même. Je commence donc ma première partie, « La sagesse de l'amour », par une citation de Christian Bobin. Je cite « Seul l'amour donne un sens à ma vie, en la rendant à elle-même insensée. Comment en dire plus ? Ma vie m'échappe. Ma vie ne tient à moi qu'en mon absence. » C'est une grande révolution, car « amour », c'est le terme qui convient pour qualifier cette philosophie de la rationalité, qui sera qualifiée par l'alliance tiercique dont je parlerai tout à l'heure. Avec elle, la souveraineté de l'autre se fissure. Le statut du commandeur se ferme, s'effondre, ainsi que toutes nos idoles. Par elle, l'humain acquiert une qualité exceptionnelle qui le distingue des autres créatures animées. Cette qualité, c'est de pouvoir se détacher de l'être, de pouvoir renoncer à y persévérer et de sortir ainsi de l'homme. L'homme est une exception dans l'être, comme le dit Alain Finkielkraut. Lévinas, Emmanuel Lévinas force encore le trait en énonçant, je cite, « L'humain est un scandale dans l'être ». L'homme qui se met en question se dépouille de soi. Il accède ainsi à l'humanité. Humus n'est-il pas à la racine commun des mots « humain » et « humble » ? Le mot grec « kénos » traduit cet état de renoncement. L'homme kénotique se libère sous l'emprise du biologique et de ses déterminismes. En s'effaçant devant l'altérité d'autrui, il se défait lui-même de toute essence, c'est-à-dire de toute réduction au concept, au genre et à la catégorie. Il s'affranchit de toutes ces définitions qui, sous prétexte de lui donner une identité, le défigurent. Autrement dit, littéralement, le prive de visage. Il devient sa propre transcendance en tant qu'être existant, c'est-à-dire comme étant hors de lui. L'homme kénotique s'inscrit dans l'oblativité, autrement dit dans la perte et le don de soi inconditionnel. Il est tout à fait remarquable, selon Maurice Zundel, que le mot « exister » et le mot « extase » est au fond les mêmes racines et le même sens. On n'existe qu'en allant vers l'être. On n'existe que dans l'intimité de l'être aimé. On n'existe qu'en se donnant. Dans cet ordre d'idées, ne faudrait-il pas reconsidérer la portée de la formule de Jean-Paul Sartre « L'existence précède l'essence ». Exister au sens de sortir de soi, dans l'écoute d'autrui, dans l'ouverture à l'appel du visage, ne réalise-t-il pas finalement l'essence de l'humain ? Exister coïnciderait ainsi avec l'essence véritable de l'homme. Cette essence manifeste la légèreté et la grâce de l'esprit. Elle s'inscrit dans l'infini, comme si le moi appelé à l'existence par autrui devenait trop grand pour son jeu. Plus étant moi, c'est le dire intérieur de ce jeu, interpellé par l'autre, et qui répond me voici. Ce plus, plus est en moi, ce plus, c'est celui de l'infini qui est en moi et que l'autre me libère. C'est celui de cet infini qui faisait dire ta Blaise Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Selon Max Scheler, cette essence infinie de l'homme, c'est l'amour. Ce mot qualifie ainsi pour Franz Rosenzweig, dans son bel ouvrage « L'étoile de la rédemption », ce mot qualifie comme la sortie hors des limites de l'égoïté, le mouvement de transcendance par lequel l'existence s'acquitte de l'être. Autrement dit, autrement qu'être, existence et essence, n'en revient-on pas à cette belle formule de Vladimir Yankelevitch, le maximum d'amour dans le minimum d'être. La philosophie de l'autrement qu'être procède un profond et radical renversement de perspective. Le bien ne s'inscrit pas à l'horizon de l'humanité, mais au commencement, à l'origine, dans cette en-tête, c'est-à-dire ce tête-à-tête où se produit la rencontre du visage de l'autre homme. Ce bien de l'origine, ce n'est d'ailleurs pas le grand bien magnifique qui fait l'objet d'un thème et d'un savoir, mais le bien à la fois fragile et indestructible de la relation, ce petit bien qui s'appelle bonté. Au commencement de l'homme, il y a donc le visage, il y a donc la relation, il y a la parole, il y a la sagesse, il y a la bonté. La bonté n'est pas naturelle, elle n'a rien à voir avec l'instant. Sur le fil tendu au-dessus de la frontière qui sépare le bien et le mal, l'homme s'avance déhanché. Le mal l'attire. Ce n'est qu'en répondant concrètement de ses actes à l'appel du bien qu'il évite la chute. Dans ce choix s'exprime sa liberté. Une liberté qui est à la mesure de sa tentation permanente et infinie. La liberté est donc difficile, elle est toujours précaire. Et comme le dit Vassili Grossman, qui a passé un moment dans les camps de concentration, c'est ici, à la lumière des fours, sur la place du camp, que des hommes sentirent que la vie est plus belle que le bonheur. Elle est aussi malheur. La liberté n'est pas qu'un bien. La liberté est difficile. Elle est parfois malheur. Elle est la vie. Ce serait une réflexion très intéressante, mais je n'ai malheureusement pas le temps de l'approfondir. Mais la place de la liberté dans l'altérité, la place de la liberté dans la relation fraternelle. C'est parce que je me dispose de moi-même, que je me libère de mon moi possessif. Oui, disposer de soi, c'est être capable de déposer son soi égoïste pour accueillir autrui. Ce qui me permet d'en arriver à ma seconde grande partie, à savoir la raison et la souveraineté de l'autre. Et je commencerai par une citation, là aussi d'Emmanuel Lévinas. Dans l'accueil du visage, la volonté s'ouvre à la raison. La question de la signification de la raison dans la fraternité est plus qu'importante. En effet, elle seule animée d'une vie propre, comme si elle venait d'un ailleurs, d'un autre pays, qui serait celui de la logique formelle et des raisonnements abstraits. Elle paraît se suffire à elle-même, capable d'ignorer les circonstances concrètes de la vie humaine, les émotions, les désirs, les souffrances, les drames personnels, finalement tout ce qui fait le quotidien de nos vies. Cette superbe traduit le mirage de la raison. En effet, la raison n'est pas autonome au sens où elle serait indépendante du vécu. Au contraire, la raison traduit intrinsèquement l'exigence de la relationnalité, dont l'appel se fait entendre dans la rencontre d'autrui. Il en découle que tout ce qui fait obstacle au libre déploiement de l'homme comme être en relation ne saurait être rationnellement justifié, surtout au nom de raisons supérieures. Il n'y a pas de bien ni de raison d'état qui tienne devant cette exigence qui pourrait se formuler comme un nouvel impératif conscient. Agis de toujours de telle façon qu'autrui puisse grandir en tant qu'être relationnel conformément à l'avenir de son humanité. Sur le fond, cet impératif se démarque de l'optique kantienne, dont la mesure ou pour Kant, comme le souligne Michel Delay, je cite, « Si j'étais seul au monde, je saurais ce que je dois faire. » Oui, dans l'optique du personnalisme, l'homme qui serait seul au monde ne pourrait devenir véritablement homme. Il ne saurait pas ce qu'il doit faire pour le devenir en l'absence d'autrui. Il n'aurait pas même la possibilité d'avoir l'humain à l'esprit. Poser l'exigence de la relationnalité comme constitutive de la raison n'est nullement porté atteinte à son autonomie véritable. Au contraire, le fait d'accomplir cette exigence délivre l'esprit de la prison la mieux gardée de l'univers, c'est-à-dire la prison du moi. Le sens de la raison repose toutefois sur un paradoxe. La raison n'a pas sa source en elle-même, et cependant, cette hétéronomie apparente apparaît comme une condition de la liberté telle que je l'ai évoquée auparavant. De même, l'homme n'est nullement un animal raisonnable par nécessité constitutive. Il ne devient raisonnable qu'en accédant à son humanité, dans sa relationnalité qui passe avant tout par l'ouverture à l'autre. Le monde n'est pas que pour moi. De ce point de vue, la raison traduit la mise en cause de la souveraineté de mon moi, celui de mon bien-être, de l'économie primitive. Comme nous l'avons vu, cette mise en question par l'autre s'inscrit dans une entreprise de libération qui est intrinsèquement liée au processus d'humanisation. Pour l'individualiste, la poursuite par chacun de son intérêt particulier est raisonnable. Pour le personnaliste, quant à lui, il ne va pas ainsi. Cette poursuite de l'intérêt propre représente sans doute une inclination naturelle, mais l'homme n'en est pas prisonnier. La raison procède, à l'opposé de ses penchants égoïstes, de la mise en partage du monde. Oui, c'est donc dans la rencontre de l'autre que se creuse la raison, que la raison creuse son puits. Autrui m'oblige, j'en serai toujours responsable. La raison consiste dans cet acte de partage par lequel le monde est offert à autrui. Cette mise en partage s'exprime dans le langage des mots. Finalement, nommer les choses, quand on parle, nommer les choses, consiste moins à se les approprier qu'à les donner à autrui, qu'à les offrir à autrui. En parlant, on offre nos mots à l'autre. L'intersubjectivité relationnelle oriente le processus qui conduit donc à la formation de la raison et du langage. La relationnalité engendre donc la rationalité. Elle constitue sa matrice constitutive, mais rien n'est jamais acquis. L'homme l'oublie parfois et la rechute est fréquente. Elle se produit quand la raison oublie la dette nouée envers la relationnalité qui l'a engendrée. C'est l'égarement objectiviste propre au rationalisme, lequel constitue une forme radicale d'obscurantisme. Le rationalisme, c'est donc la raison qui fait sécession de la relationnalité. finalement le dicton bien connu selon lequel le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, ne correspond pas à la réalité humaine. Envisagée comme dynamisme de l'homme engendré dans leur relation, cette réalité n'est pas dissociable à l'appel inscrit sur le visage d'autrui. La raison ne peut ignorer les cœurs, sauf à tomber dans l'autisme rationaliste. Les raisons du cœur qui sont celles de l'amour ne sont donc pas infrarationnelles, mais suprarationnelles. Au cœur de la raison résonne l'exigence de la relationnalité. L'amour-relation est donc le fondement de la raison comme faculté d'entendement, une faculté qui s'exerce, nous en avons parlé dans la journée, dans l'écoute du visage d'autrui. C'est parce que je suis le gardien de mon frère que ma raison doit rester raisonnable. Mon jeu relationnel et existentiel justifie mon jeu rationnel. Le premier est le gardien du second. Ensemble, ils forment le cœur de la conscience humaine, ce siège de l'entendement véritable où se réconcilient le cœur et la raison. La raison ne l'oppose donc nullement à la sensibilité. Cette conjonction entre l'ordre de la raison et celui du sensible, cette inclusion de la rationalité dans la relationnalité, pourront certes paraître inédites. Mais c'est dans cette alliance pourtant que se fait entendre la voix de la sagesse, celle, je cite, d'Éloi Leclerc qui dit « Une sagesse de l'amour qui vient au rendez-vous de l'amour de la sagesse. » Ce qui me permet d'en arriver à ma troisième et dernière grande partie, à savoir l'autre comme sujet. Et pour reprendre le si bel ouvrage de Paul Ricoeur, soi-même comme un autre. L'homme est un être responsable, nous l'avons vu jusqu'à présent, responsable de l'autre. Il pourrait s'exprimer ainsi, si je donne tout à celui qui me fait face, que puis-je faire pour cet autre-là, et celui-là encore, et tous les autres à l'écart de qui je suis ou je serais en dette? Qu'est-ce que la justice, sinon cette nécessité de mesurer le geste de fraternité envers l'un, afin que la responsabilité puisse être aussi assumée à l'égard de tous les autres? Oui, l'intervention du principe de justice ne tempère pas en effet nullement la responsabilité. Elle ne fait qu'en moraliser l'exercice. Dans la fraternité, il y a une justice, il y a donc un équilibre. La préoccupation d'assurer la justice n'édulcore en rien la réalité de l'élection par autrui, ainsi que la responsabilité infinie et inconditionnelle envers l'autre qui me fait face. L'intervention du tiers apporte ainsi une nouvelle dimension à la sagesse de l'amour. Et ce tiers, c'est la médiation du témoin de la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire cet espace social auquel je ne peux m'affranchir. En effet, le premier venu dont je suis responsable, à côté de qui je ne puis passer sans broncher, sera souvent dans les circonstances de la vie un proche, un parent, un ami. Il s'agira moins souvent d'un membre de ma communauté de vie. S'il n'y avait pas eu l'intervention du tiers et la prise en compte de la justice comme principe d'élargissement de la fraternité, le danger serait alors d'associer la philosophie de l'autre à, excusez-moi de l'expression, cette idéologie du terroir qui réserve cette solidarité au prochain, tout semblable à soi, aux membres du clan défini par la race, la classe, le milieu social, etc. La loi de solidarité clanique se solde par la négation de l'autre. Oui, dans la philosophie de l'autre, le chiffre clé qui exprime l'appel exigeant de la relationnalité n'est pas le 2 du face-à-face, mais le 3, où intervient le possible d'un autre avenir. Absent pour l'heure, il se présente plus étrange que celui qui à présent m'aborde et de moi son prochain immédiat. La présence du tiers, vécu sur le monde, l'absence, ouvre la troisième dimension de la relation. Cette troisième dimension de la relation, c'est une dimension de la profondeur infinie, orientée vers l'autre, lointain, qui s'offre à moi, au grand large, d'une fraternité ouverte, ou n'importe qui, comme si dans le visage du premier venu, j'entendais déjà l'appel d'un dernier venu, appel encore provisoirement anonyme, mais plus pour longtemps. La relationnalité fondatrice de l'humain, qui correspond à cette capacité de nouer gratuitement, sans nécessité d'ordre biologique, un lien au-delà de la séparation ne forme donc pas une structure binaire, mais ternaire. Le lien social n'émerge pas dans la relation à deux, mais à trois. Ainsi, l'expression qui traduit cette dimension ternaire de la relationnalité est celle, je le citais tout à l'heure, de l'alliance tiercique. L'alliance tiercique, c'est l'association de ces deux termes qui qualifie le geste fondamental de la rationalité par lequel se noue et se déploie le lien social au prix d'un double dépassement. Il y a ce premier dépassement qui consiste pour le jeu à s'ouvrir au tu, au-delà de leur séparation. C'est là que la relation se noue. Et simultanément s'accomplit le second dépassement de cette relation à deux dans l'ouverture en direction du tiers. Cette ouverture laisse un côté béant dans le périmètre de la relation nouée à deux, mais c'est par ce côté béant que la relation se déploie. Un ensemble de significations infinies se distingue ainsi dans cette notion d'alliance tiercique, dont il faut aussi souligner l'absence de solennité qui marque son expression vécue. Un regard, une parole, de simples gestes suffisent. Ce sont des gestes accomplis au quotidien, dans la proximité. C'est cela qui construit la fraternité. Cette quotidienneté des gestes d'alliance qui se répètent jour après jour, rencontre après rencontre, visage auprès d'autres visages, qui n'enlève rien au caractère extraordinaire de la relation où l'homme s'accomplit. L'ascension à ce qui est véritablement humain ne peut être qu'extraordinaire. Ce qui me permet d'en arriver à ma conclusion. Je commencerai cette conclusion là aussi par une nouvelle citation de Christian Bobin qui marche en effaçant ses pas, s'interroge-t-il, et il répond « la bonté ». Perte de l'être, tel serait le sort du jeu, ce sujet pour autrui, assigné à la responsabilité devant le visage de l'autre avec un grand A. Cette responsabilité se présente comme irrécusable et inconditionnelle. La relation d'alliance est asymétrique. Il n'y a pas de loi du retour, de condition d'équivalence posée au préalable à l'exercice de la responsabilité. L'exigence éthique se pose dans la radicalité absolue. Autrui m'oblige. L'impératif catégorique de la relationnalité résonne dans toute son intransigeance, agit toujours de telle façon qu'autrui puisse grandir en tant qu'être relationnel conformément à l'avenir de son humanité. J'y vois l'expression même de la valeur qui est ce qui vaut de manière absolue, sans condition, sans la relativité dont serait sortie la moindre exigence de réciprocité. Le seul compromis tient à l'exigence de justice. Cependant, la justice ne se réduit pas à la hauteur de mes engagements. Elle force l'interrogation sur les droits du tiers, ce prochain lointain envers qui je suis tenu. L'éthique fraternelle, c'est cela. L'éthique fraternelle, c'est le saut dans l'inconnu, le grand pari au risque de l'autre, au risque de mon frère, sans promesse de récompense, sans marchandage. Il n'y a pas de certitude de retour à soi, nul profit prévisible, rien que le don pur. L'amour est inconditionnel. L'amour n'existe que dans l'asymétrie du devoir envers l'autre, qui est mon frère, en surplus le droit que j'aurai envers lui. Blaise Pascal fut l'un de ces sages qui portent témoignage que dans le néant, il y a quelque chose ou quelqu'un, comme un autre de la vie, qui ne serait pas la mort. Ce néant ne serait donc pas rien. Il ne s'agirait que du néant de ce que la pensée ne peut penser, selon sa mesure à elle. Un chemin s'esquisse comme un possible accomplissement au-delà de l'être, à la mesure de l'infinitude de la condition humaine. Le personnalisme n'est nullement cette philosophie abstraite, n'est nullement cette philosophie cérébrale. C'est une pensée qui surgit de la vie, une pensée qui s'incarne dans la chair et dans le corps. Ce n'est pas une philosophie très typique de la pensée occidentale, dans la mesure où celle-ci est marquée par le dualisme qui oppose l'esprit et la matière, un dualisme dont nous avons hérité des Grecs. En repoussant cette opposition qui est contraire à l'expérience vitale, faut-il rappeler que je n'ai pas un corps mais que je suis mon corps ? Le personnalisme retrouve le terreau fécond de la pensée sémitique, celle d'Israël. L'homme est un esprit qui habite son corps, il est un corps habité par l'esprit. L'intuition essentielle du personnalisme, c'est cela. L'esprit vit en l'homme et s'exprime dans son corps. Ainsi, le personnalisme est ce chemin qui ouvre à la fraternité. C'est un chemin qui permet aux frères de marcher ensemble vers leur plein accomplissement. Chemin qui leur fera toujours devenir plus eux-mêmes, c'est-à-dire des frères en humanité. Et permettez-moi de conclure par cette petite anecdote dont je vous avais parlé au début. Il y a quelques années, là aussi, quand j'étais sur Lyon, j'ai visité un couple de personnes âgées. Et cette petite anecdote, je l'ai racontée l'année dernière pour ceux qui ont participé au cours du père Jean-Michel Poirier. On m'avait demandé de donner une réflexion sur l'herméneutique. Et dans mon exposé, j'avais parlé de cette petite anecdote que je vous livre de nouveau maintenant. J'ai visité un couple de personnes âgées il y a quelques années, et toutes les semaines, je les voyais sur la table du salon de la maison de retraite. Lui avait 98 ans et elle avait 96 ans. Le monsieur ne parlait plus, il regardait sa femme toute la sainte journée. Et son épouse discutait, savait que je faisais à l'époque des études de philosophie, nous avions donc des très belles discussions. Et un jour, je me suis mis à lui poser cette question. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, aimez-vous encore votre époux ?» Je me suis posé cette question parce qu'il ne parlait plus. Et sa réponse a été lumineuse. Lumineuse dans ses mots et lumineuse dans son regard. Parce qu'elle m'a dit, vous savez, je n'aurai jamais fini d'aimer mon époux parce que je n'aurai jamais fini de le découvrir. Et je crois, je dirais qu'au seuil de la mort, elle m'a appris ce qu'était la vie. Au seuil de la mort, elle m'a appris ce qu'était la fraternité. Oui, la fraternité, c'est celui qui s'ouvre à celui qui est devant, à l'autre qui est devant lui, qui l'accueille, qui le respecte, qui le découvre et qui n'aura jamais fini de le découvrir, parce que l'autre et moi-même avant tout, nous resterons des mystères. Je vous remercie.
Merci à vous. Si la pensée d'Henri de Lubac nous suggérait l'image de la montagne, Je crois que votre méditation, Emmanuel, nous suggère plutôt l'image de la mer, de l'océan. Nous voici au large, n'est-ce pas? Très au large, dans ce mystère immense de la fraternité que vous nous avez si magnifiquement évoqué à travers des thèmes peut-être qui sont un peu nouveaux ou déroutants pour certains d'entre nous, mais qui, pour ceux qui ont lu un peu les auteurs que vous citez, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur,
Max Scheler
et d'autres, résonnent profondément. Le décentrement de soi, le primat du relationnel sur le rationnel, qui me faisait songer à une autre expression chère aux mystiques orientaux, faire descendre l'intelligence dans le cœur, cette réconciliation en profondeur. Et puis dans votre troisième partie, peut-être aurons-nous retenu plus spécialement votre allusion discrète à la quotidienneté et à la discrétion de la fraternité authentique, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans le spectaculaire, ce n'est pas dans l'exceptionnel qu'elle se réalise, mais dans l'humble, dans une sagesse qui est un savoir-vivre, tout simplement, une proximité très concrète. Nous avons effectivement une belle et grande journée derrière nous, mais donnons quand même quelques minutes, si vous voulez bien, aux échanges, aux questions, aux réponses, aux réflexions.